France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2001, dans L'Express, peu après la disparition de Jérôme Lindon, Martine de Rabaudy rapportait que quand on lui demandait ce qu'avaient en commun les auteurs qu'il publiait, le patron des éditions de Minuit répondait « Ils travaillent en solitaire. Ils ne se préoccupent ni d'argent, ni de prix littéraire, ni de gloire dans l'immédiat. Ils ont tous un peu l'attitude de Beckett, travaillant à l'écart de Paris, de la télévision, des revues. Sinon, je vois plutôt leurs différences. À la critique littéraire de voir les affinités. » En 1994, c'est dans les locaux de la maison, au numéro 7 de la rue Bernard-Palissy, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, que Jean-Maurice de Montrémy rencontrait Jérôme Lindon pour une série de 5 entretiens d'avoine nue. Dans le 4e de ces entretiens, Jérôme Lindon exposait ce qu'était son travail d'éditeur, racontait ce qu'était son emploi du temps au quotidien, comment se passait la réception et la lecture des manuscrits, expliquait pourquoi on disait oui à certains et non à d'autres, décrivait sa relation avec les libraires, les critiques et les jurés des prix littéraires, mais s'attardait surtout sur la nature du lien avec les auteurs qu'il avait choisi de publier, sur sa conception du rôle d'un éditeur. À voix nue, Jérôme Lindon, 4e entretien, diffusé la première fois le 20 octobre 1994 sur France Culture.
À voix nue. Jérôme Lindon s'entretient avec Jean-Maurice de Montrémy. 4e entretien.
Alors voilà, Jérôme Lindon, nous sommes dans les années 1960. Le nouveau roman fait parler de lui. Plusieurs de vos écrivains ont du succès. Et puis, est-ce que vous étiez déjà installé ici, dans cette petite maison de la rue Bernard-Palissy?
Oui, depuis 10 ans. Quand je suis arrivé aux éditions de Minuit, nous occupions un local au coin du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, qui était l'ancienne librairie italienne, qui était donc devenue la librairie fasciste et qui avait donc été réquisitionnée à la Libération. Et les éditions de Minuit, avant moi, avaient bénéficié cette possibilité de s'y installer. Et puis, vers les années 50, la paix a été signée avec l'Italie. On a donc rendu aux Italiens tous les biens qu'ils possédaient et il nous a fallu partir. Et alors, je peux vous raconter comment ça s'est fait. Je me suis dit, il va falloir que je m'occupe de trouver un autre local. Alors, je vais acheter François. Il paraît qu'il y a des annonces dans François, des annonces immobilières. Donc, j'ai acheté François. C'était la première fois de ma vie que j'ai acheté François. Et j'ai regardé les annonces immobilières. On proposait un petit local, cette rue Bernard-Palissy. Et je suis venu.
Toute petite rue,
mais que je me
rends à Saint-Germain
de Prés, ça me paraissait très bien. Et j'ai vu la personne. C'était une maison de couture qui était installée là, mais qui avait succédé à une maison de passe qui était là 2 ans avant et qui s'était transformée à la suite de la loi Martrichard et qui avait fermé à ce moment-là.
Vous êtes donc passé d'une librairie fasciste à un ancien bordel, grosso modo.
Voilà. Et je me rappelle qu'un jour, Roger Martin Dugard, qui habitait juste là, à côté, rue du Dragon, était venu rendre visite à Robe Grillet qui occupait un petit bureau dans cette maison, et Martin Dugard, qui connaissait la maison, s'était approché du mur, avait frappé avec son doigt sur le mur qui avait rendu un son cristallin. Il a dit, vous voyez, c'est une glace qui est derrière ce papier, et c'était là qu'était la pièce du voyeur. C'était évidemment amusant de penser que c'était le bureau de Robe Grillet.
S'agissant de Robe Grillet, on pourrait penser qu'il l'a inventé. Ce qu'il a
inventé. Non, c'est pas du tout vrai. Moi, j'étais là.
Vous étiez là, vous pouvez en témoigner.
Je peux bien. Ah non, Alain n'invente pas. Je veux dire, en tout cas, quand il invente, c'est sincèrement. Il croit vraiment que c'est vrai. Effectivement, il donne souvent des renseignements qui sont faux. Nous avons eu l'occasion récemment d'en faire l'expérience à propos de Claude Simon.
Oui, dans Les Derniers Jours de Corinthe, il raconte même des épisodes des années 1950 aux éditions de Minuit.
Oui, la plupart sont vrais, mais quelques-uns sont inexacts. En tout cas, je peux vous garantir que ce qu'il raconte à propos de Claude Simon, il y a une partie qui est exacte, mais il y en a une partie qui ne l'est pas.
Il raconte que vous auriez, oui, que vous seriez intervenu sur un des livres de
Claude
Simon.
Oui, je crois qu'il dit plus ou moins qu'on avait incité Claude Simon à retirer la moitié du livre qu'il avait apporté aux éditions Minuit, qui était Le Vent, alors que ce n'est pas du tout passé comme ça. À la fin du livre, Claude Simon avait fait un épilogue de 2 ou 3 pages qui nous avait semblé un peu incongru. Et quand nous en avons parlé, Alain et moi, à Claude, il a dit bah, évidemment qu'il est incongru. Moi, je l'avais fait parce que je ne pensais pas qu'un éditeur accepterait de publier le livre sans une conclusion. Mais il va sans dire que si on l'enlevait, ça serait beaucoup mieux. Et ce n'est même pas nous qui avons demandé à Claude Simon de l'enlever. Il était le premier à penser que c'était une pièce rapportée. Voilà comment ce petit incident tout à fait mineur est devenu du fait des souvenirs. Faux d'Alain est devenu un incident plus grave.
Un incident diplomatique. Mais justement, c'est votre métier d'éditeur quand il y a des auteurs comme ça qui, ouais, bien qu'étant amis ou proches, disent l'un sur l'autre, oui, ou écrivent l'un sur l'autre. Qu'est-ce que vous faites, les messieurs bons offices?
Je ne sais pas. Moi, j'essaye d'éviter des drames, effectivement, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'enfin, un auteur, il est toujours maître de ce qu'il écrit. Ce n'est tout de même pas un éditeur de dire voilà ce qu'il faut écrire et ce qu'il faut enlever. Hein. Surtout quand ce sont des vrais écrivains.
Alors, je reviens dans cette petite maison de la rue Bernard Palissy. On monte à un escalier très très raide, tout est très étroit, ouais. Et vous avez un bureau relativement grand, bourré, ouais, de livres des éditions de Minuit uniquement, et qui semble n'avoir pas changé depuis des années.
Vous êtes vache, parce qu'il y a beaucoup de traductions quand même.
Non, c'est presque les traductions de vos auteurs.
Voilà. Donc vos auteurs. Oui, encore, il y en a très peu.
Il y a des rayons Minuit et d'autres rayons plus colorés qui sont chacun des auteurs dans toutes les traductions des langues étrangères.
Les rayons Minuit, ils sont là pour l'utilité, parce que ça, j'ai souvent besoin de consulter en effet ces livres. Quant aux autres, c'est plutôt pour la frime, effectivement.
Mais justement, c'est pas très frimeur votre bureau, c'est austère. Oui. Vous avez un grand bureau lui-même très en ordre, relativement austère. Une lampe ancienne,
ancienne. L'abat-jour, notamment, aurait intérêt à être remplacé depuis une trentaine d'années déjà.
Et c'est sans doute une lampe qu'on imagine sur une table d'éditeur après la Seconde Guerre mondiale, à peu près.
Oui, probablement. Cette lampe doit dater. En effet, c'est une lampe de bureau classique qui doit dater d'il y a une trentaine d'années.
Non, c'est très frappant ici, parce qu'on a l'impression que vous avez pris les lieux dans un certain état, que vous êtes d'ailleurs tous très soigneux et très ordonnés, parce que rien ne traîne, mais que vous n'avez pas... Vous n'avez jamais cherché à refaire des locaux superbes.
Non, c'est la paresse dont je vous parlais.
Paresse.
Je crois que c'est de la paresse. Oui, c'est des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Alors, je devrais m'y intéresser, mais effectivement, la question de décorum ne me paraît pas suffisamment importante. Et j'ai sûrement tort. Hein, je ne précise. Heureusement qu'il y a des gens dans la maison, ma secrétaire et maintenant ma fille, qui sont capables de me faire des remontrances à l'occasion. Et quand ça devient trop sale ou trop vieux, de me dire quand même, vous feriez bien de changer votre fauteuil ou la lampe. La lampe, ils ne sont pas encore arrivés. Mais le fauteuil, ça arrive.
La lampe, elle est arrivée en effet à un certain point. Il faut imaginer quelque chose qu'on voit un peu dans les bandes dessinées de Blake et Mortimer, quelque chose de ce goût-là. Elle est arrivée à un certain point, il ne faut plus la changer.
Vous croyez, hein?
Ah, bah oui, parce que là, je crois que ça fait partie.
Ça me fait plaisir.
Mais alors, je reviens, vous dites que le matin, vous vous levez avec enthousiasme, avec l'idée que vous allez travailler. Mais donc, vous entrez dans un bureau austère. On ne peut pas dire que, quand on regarde ce bureau, il y a des couvertures, une photo, hein, une affiche de Samuel Beckett.
Oui, il y a une photo de Samuel Beckett.
Et c'est tout. Le reste, les murs, même blancs.
Qu'est-ce que vous voulez que j'y mette, quoi? Des pin-ups? Non, je veux dire, bon, c'est normal, un bureau c'est pour travailler,
des
c'est pour lire en fait.
Un tableau, des sculptures.
Il n'y a plus de place. Il y a une époque où j'en avais, mais maintenant il n'y a plus de place parce qu'il y a précisément des bibliothèques partout et où le reste c'est des placards. Il n'y a pas un centimètre carré où on puisse accrocher un tableau. Et la photo de Samuel Beckett, en fait, elle est sur une porte de placard. Je ne pourrais pas y mettre un tableau, parce que vous imaginez ce que ça donnerait si on l'ouvrait et le fermait en permanence.
Ça serait intéressant, mais c'est pas tout de même une certaine austérité dans votre caractère?
Peut-être que les gens pensent ça. Oui, ça donne cette impression, en effet, en tout cas, parce que c'est essentiel. Non, je veux dire, moi, ça ne me regarde pas si je suis austère ou pas. Moi, je ne me sens pas du tout austère. Je suis quelqu'un qui m'amuse énormément. Je me suis amusé jusqu'à maintenant toute ma vie, et ça m'a toujours énormément intéressé ce que je faisais. Je me suis toujours considéré comme formidablement privilégié de pouvoir, en effet, faire des choses qui m'ont intéressé, et je dirais même amusé très souvent. Il y a des choses où je ne m'amusais pas tellement. Quand j'étais inculpé pendant la guerre d'Algérie, je détestais ça. Mais enfin, malgré tout, ça n'a rien à voir avec un esclavage. C'est tout le contraire. Je vous dis, il n'y a pas tellement de gens, au fond, qui vivent sur la Terre, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, qui peuvent faire, en gros, ce qu'ils veulent dans leur vie, de toute leur vie. C'est formidable.
Vous parlez justement de l'image qu'on donne. C'est vrai qu'à partir du moment où vos écrivains, en particulier le nouveau roman, sont devenus célèbres, où vous avez eu des engagements politiques, on a commencé à dire que les éditions de Minuit, et vous-même donc, étiez des gens de pouvoir, que vous vouliez imposer aux universités, des écrivains, que vous vouliez imposer à la France une littérature, que vous aviez le bras long.
Non, oui, je me rappelle, c'était André Essel qui disait que la loi sur le prix unique avait été obtenue par les éditions de Minuit juste après l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, et qu'il avait découvert à cette occasion que j'étais un des grands pontes du Parti Socialiste. Et je lui avais écrit en lui disant, moi je viens de le découvrir aujourd'hui, alors, parce que je ne le savais pas avant de lire votre livre. Non, les gens se font en effet beaucoup d'illusions sur le pouvoir, le bras long sûrement pas. Maintenant, effectivement, c'est un métier de pouvoir. On a le pouvoir de publier ou de ne pas publier. C'est un énorme pouvoir, c'est un pouvoir injuste, c'était comme tous les pouvoirs, c'est quelque chose de scandaleux en soi. Bon, bah, il faut savoir, il faut faire avec, hein, je veux dire.
Mais quand est-ce que vous avez pour la première fois senti que vous étiez devenu un éditeur important, donc en but soit à l'hostilité, soit à des propos, je vais dire, un peu jaloux ou rancuniers?
Bon, je sais quand je suis devenu, je vous l'ai dit, un éditeur, c'est quand j'ai eu la chance de rencontrer l'œuvre de Samuel Beckett. À partir de ce moment-là, j'ai pensé qu'en effet, j'allais pouvoir devenir un éditeur. Quant à savoir si j'ai un pouvoir, moi, je sais très bien que je n'en ai aucun pouvoir sur l'opinion, sur les gouvernants, sur les journalistes.
Sur la littérature, théoriquement, vous avez tout le pouvoir.
Le pouvoir de publier ou pas publier, mais...
Certains disent que l'édition de Minuit sont responsables de la... fait que la littérature française s'est transformée en université et ensuite qu'elle serait devenue horriblement technique.
Peut-être, c'est ce qu'ils disent, mais moi je sais que nous allons publier 3 romans à la rentrée et que, au départ, j'en parlais encore tout à l'heure avec Irène, je ne m'attends au pire, c'est-à-dire qu'aucun de ces 3 romans n'est même de presse, n'est-ce pas? De vente, n'en parlons même pas.
Vous dites toujours que vous attendez au pire.
Oui,
très souvent.
C'est vrai, il vaut mieux s'attendre au pire que le contraire, on ne peut avoir que de bonnes surprises. Mais de temps en temps, je m'attends à quelque chose de mieux et il est rare que je ne sois pas déçu.
Par exemple, vous avez eu un prix Nobel, c'est difficile à calculer. Enfin, 2 prix Nobel avec Samuel Beckett.
Non, mais c'est évident que quand.
Un prix Goncourt, par exemple.
Bon, on ne s'attend pas du tout à un prix Goncourt. D'abord, je veux dire, on n'a même pas l'idée de l'envoyer aux membres du jury quand on publie L'Amant ou quand on publie Le Champ d'honneur. Il se trouve que c'est les membres du jury qui, eux, ont l'idée de donner le prix Goncourt à ce livre. Et je peux vous garantir qu'on a non seulement on n'a fait aucune manœuvre pour ça, mais qu'on n'a même pas fait le minimum nécessaire qui consiste à envoyer un exemplaire à chacun des membres du jury. Non, c'est pas à ce niveau-là que se fait le travail. Le travail, c'est sur le manuscrit, c'est entre le moment où on reçoit un manuscrit et le moment où il sort sous forme de livre. Alors, bien entendu, une fois qu'on a choisi un livre, pas pour des raisons commerciales en général, je crois pas que ça soit un critère qui joue beaucoup, on a choisi un livre parce qu'on trouvait qu'il fallait le publier, alors à ce moment-là, une fois qu'il est publié, on fait effectivement ce qu'on peut de dessein pour attirer l'attention des quelques critiques auxquelles on attache du prix, ils sont pas nombreux, vous le savez, des quelques libraires qui sont aussi dans ce cas, ils sont d'un peu plus nombreux que les critiques, mais ils sont pas non plus des milliers. Et puis ensuite, adieu vat, c'est plus à nous de jouer. Il faut que les choses... Je vous dis, on suit le mouvement, mais on ne le provoque pas du tout. On n'en a pas du tout les moyens. Nous ne sommes pas de ces éditeurs qui éditent les membres des grands jurys littéraires, qui ont les moyens de payer des voyages à des libraires à l'autre bout du monde à l'occasion de la sortie de telle ou telle. Non, c'est pas... Nous faisons notre travail de façon strictement artisanale et il se trouve qu'en effet, à certains moments, le succès, il faut bien le dire, pour certains des auteurs que nous avons publiés, a pu donner l'impression que nous avions un pouvoir, mais avant aucun.
Alors, ces auteurs, justement, vous les rencontrez où ? Ici, dans votre bureau, lorsque vous avez lu le manuscrit ?
Oui, bien sûr. Enfin, d'abord, on rencontre un manuscrit. En général, on ne connaît pas l'auteur au moment où on lit le premier livre. Ensuite, évidemment, c'est ici parce que je suis comme quelqu'un qui se déplace très peu, qui a beaucoup de mal à l'étranger, il n'en est même pas question. En province, à peu près pas non plus. De temps en temps, je traverse le boulevard Saint-Germain, mais la rive droite commence de l'autre côté pour moi. Et je vous dis, j'ai du mal à la franchir, sauf pour aller au seuil qui est tout voisin. Non. Je suis quelqu'un qui fait très mal son travail de relations publiques.
Non, mais je pense à l'auteur. Bon, il va vous voir pour discuter du manuscrit. Vous déjeunez avec les auteurs ? Vous allez chez eux ?
Non, jamais. Jamais. Et ils ne viennent pas chez moi non plus. Enfin, ou très peu souvent. Quand ce sont des amis, oui. Mais un auteur, non, il n'y a aucune raison. Je vous dis, moi, j'essaye même de couper complètement ma vie professionnelle et puis les deux jours de la fin de semaine où je suis complètement libéré de ça, où j'emporte jamais de manuscrit chez moi et où je vais marcher seul en forêt, c'est ce que j'aime le mieux faire, quoi. Où je peux aller au cinéma aussi de temps et même lire des livres d'autres maisons d'édition qui ne se trouvent pas dans les rayons autour de moi, là, ici, mais que je lis quand même. Et je peux vous dire que j'achète beaucoup de livres, ce qui n'est pas tellement courant chez les éditeurs.
Oui, d'habitude, on se les fait offrir, bien
voilà.
Sûr. Mais alors, je reviens même à ces rapports avec
les auteurs. Si je ne me les fais pas offrir, c'est parce que je déteste les offrir moi-même et que, par conséquent, je ne voudrais pas me créer des liens de dépendance de cet ordre. Je préfère aller acheter les livres de mes confrères dans une librairie. Et même, ils ne le savent pas, d'ailleurs, que je les achète, mais je préfère ne pas que les deux choses soient séparées. Rien ne m'agace plus que les gens qui vous demandent des services de presse alors qu'ils ne sont pas dans la presse, n'est-ce pas ? Et qu'ils n'en feront rien sinon le lire et faire l'économie d'un livre. Moi, je trouve que la meilleure des choses qu'on peut faire, y compris à l'égard des éditeurs, c'est les inciter à aller dans les librairies acheter leurs livres.
Alors je reviens tout de même à cet auteur. Il vous envoie, mettons que ce soit un jeune auteur, il vous envoie le manuscrit, vous lui dites d'accord, vous le recevez.
Oui.
Et alors à ce moment-là, vous discutez de son texte pied à pied, vous demandez des corrections, enfin vous me direz que ça dépend des cas.
Il n'y a pas de règle, mais dans l'ensemble, je considère que le meilleur juge d'un texte, c'est l'auteur, et qui sait ce qu'il fait. Les seuls moments, ils sont assez rares, où je me permets une observation, c'est quand j'ai l'impression, à tort ou à raison, que l'auteur a raté quelque chose qu'il aurait voulu faire et qu'il n'a pas réussi à faire. Alors, un mot à la place d'un autre, quelquefois. Bon, il peut m'arriver aussi de dire à votre livre, je trouve qu'il n'est pas publiable et vous devriez le retravailler, mais je ne me sens pas, quand on me dit, mais quel conseil me donnez-vous? Je dis, écoutez, ça c'est vous. Moi, je ne suis pas écrivain, moi, je suis éditeur, simplement. Je ne donne pas de conseils, en principe. La question qui m'est posée par un manuscrit, c'est est-ce que vous vous sentez capable, vous, éditeur, de le publier ou pas ? Et donc, le jugement que j'exerce, c'est sur moi. Je vous l'ai dit déjà.
Mais je me mets à la place d'un jeune écrivain. Est-ce que vraiment, vous pouvez, il vous arrive, certains le pensent, d'intervenir dans certains manuscrits
Oui, ça peut arriver, mais en principe, évidemment, ça ne m'est jamais arrivé sur un manuscrit de Samuel Beckett ou d'Alain Robrier, si vous voulez. Et ça peut arriver pour un premier roman ou sur des gens plus jeunes. Et puis, il peut m'arriver aussi de corriger des fautes d'orthographe, si vous voulez.
Oui, c'est moins grave.
Oui, mais enfin, c'est vrai.
Alors, on prend le cas, par exemple, mettons Claude Simon. Claude Simon vous apporte donc régulièrement ses livres. Oui. Est-ce si vous estimez qu'il y a une ou deux choses qui ne vont pas ? Est-ce que vous allez lui dire ?
Oui, bien sûr. Généralement,
je parle très librement. Ça peut être la même chose pour Pinget ou...
Oui, absolument, bien sûr. Mais ça, les rapports que j'ai avec les écrivains que vous venez de nommer sont tels qu'on peut parler tout à fait librement. Ce n'est même pas des rapports d'éditeur à auteur. C'est presque des rapports amicaux. Et donc, en effet, ça peut se produire. Mais enfin, ça ne touche qu'à des détails infimes, en général, dans ces cas-là. Il y a des cas où ça peut aller un peu plus loin, mais dans l'ensemble, vous savez, si j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à dire sur un livre, enfin de choses qui ne vont pas, j'estime que c'est que le livre ne va pas, et donc il ne faut pas le publier.
Est-ce que c'est possible justement de maintenir des bonnes relations de complicité ? Je pense en particulier, j'allais dire, à tous ceux de la génération du nouveau roman, donc Rob Grier, Simon, Pinget, tous ces gens-là. Est-ce que c'est possible de maintenir des relations vraiment d'amitié et d'éditeur, tout en portant un jugement sur leur œuvre ?
Bah écoutez, ça m'est facilité par le fait que j'ai la plus grande admiration pour leur œuvre, vous comprenez ? Effectivement, je pense que ça deviendrait gênant si tout d'un coup je me disais « mais il devient gratteux, ça va plus du tout ce qu'il écrit ». Alors là, il y aurait un problème, mais ça a pu se produire, ça, à un moment où en face d'un texte, quand on est réticent, effectivement, ça introduit une gêne dans les relations, même amicales, ça c'est vrai. Mais enfin, ça n'a jamais été le cas, ni pour Claude Simon, ni pour Robert Pagé, ni pour Alain Rocaillet, ni pour Samuel Beckett, etc.
En regardant votre catalogue, on voit, on ne va pas pouvoir donner leur nom, un certain nombre d'auteurs que vous avez pas mal publiés dans les années 60, 70, qui sont toujours vivants et qui ont cessé de publier en général. Chez vous, ils ont cessé de publier. En général, ils n'ont pas trouvé preneur non plus ailleurs.
Vous pensez à qui, par exemple ?
Je ne penserais pas à Jean Ricardou ou...
Ben, il a peut-être cessé d'écrire.
Claude Ollier, dans certains cas.
Je ne crois pas qu'il ait écrit d'autres romans. Ben, si, Claude Ollier a été publié ailleurs, oui, c'est ça. Non, il y a des gens comme Tony Duvert, par exemple, qui n'a plus jamais terminé un seul livre depuis des années, depuis 15 ans à peu près. Mais c'est lui qui ne les termine pas, car il trouverait un éditeur, d'abord aux éditions de Minuit, sans doute, et puis même ailleurs. Non.
Mais vous ne pouvez pas l'aider, non ?
Ah non, ça, je ne peux pas écrire. Non, non, je peux pas l'aider. En effet, je peux l'encourager. Je peux. Enfin bon, maintenant, bon, vous savez, c'est des affaires très personnelles.
Oui.
Bon, et puis je veux pas. Et puis je veux dire, il y a un moment où je dois m'arrêter. Je ne dois pas intervenir dans la vie personnelle, en effet, des gens. Je veux dire que un auteur a même le droit d'arrêter d'écrire, même si on peut le regretter comme éditeur.
Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'un certain nombre d'auteurs, justement, se sont engagés en littérature parce qu'ils étaient publiés aux éditions de Minuit, parce que c'était important, parce que de grands auteurs s'y trouvent, et d'une certaine manière se sont trouvés engagés à consacrer toute leur vie à la littérature, et sans que la littérature les récompense beaucoup?
Oui, c'est vrai. C'est une chose triste, en effet, mais en effet, il y a des. Je pense qu'aux éditions de Minuit ou ailleurs, il y a des gens qui ont commencé et qui n'avait peut-être pas de quoi nourrir toute une vie de littérature. En effet, c'est possible.
Et vous le sentez chez certaines personnes ?
Oui.
Et vous leur dites ?
Vous leur dites... non, je veux dire, quand on le sent, c'est que c'est terminé, malheureusement. À ce moment-là, c'est même plus la peine de le dire. L'auteur le sait lui-même, en général. Et ça, c'est quelquefois très ennuyeux, surtout quand c'est quelqu'un qui aurait pu avoir une vie professionnelle, par exemple, tout à fait différente, qu'il a sacrifié à une vocation littéraire qui n'était peut-être pas assez solide. Bon, vous savez, ça fait partie des malheurs, ça.
Vous ne donneriez pas à un jeune écrivain, quel qu'il soit, le conseil de tout abandonner pour écrire ?
Vous savez, je ne donnerai jamais un conseil quelconque de ce type à qui que ce soit, jeune écrivain ou pas, et je pense que mon rôle n'est pas de donner des conseils. Mon rôle, comme je vous l'ai dit, est d'essayer de servir des œuvres qui me sont proposées.
Oui, mais c'est normal qu'un jeune écrivain plein d'enthousiasme se dise « ça y est, je suis publié, c'est peut-être le début d'une grande œuvre, allez, je laisse tout tomber, je m'y consacre ».
Il a le droit de le faire, je veux dire, c'est un risque qu'il prend, mais enfin bon, bien entendu, si la conversation vient là-dessus, je ne cache pas aux écrivains ce que nous disions tout à l'heure sur l'énorme difficulté qu'il y a pour un vrai écrivain, aujourd'hui comme au XIXe siècle, de vivre de sa plume. Bon, maintenant, si quelqu'un veut prendre ce risque, ce serait, je n'ai pas le droit non plus de l'empêcher.
Vous nous avez dit aussi qu'un jour, qu'il était très tentant pour vous, parfois, de pasticher, vous pourriez pratiquement pasticher tous vos auteurs, tellement vous les avez bien lus, c'est vrai ?
C'était une boutade. Oui, enfin bon, il y a certaines fois, oui, on se dit ça un peu, mais ça fait... Non, je me dis ça pour me rappeler à une certaine modestie, c'est-à-dire que on croit connaître une œuvre, et puis tout à coup, on pourrait se trouver victime d'une supercherie, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui écrirait un pastiche de l'œuvre en question, et le pastiche, par définition, pourrait être très bien fait, mais n'aurait aucune valeur en soi. D'abord parce qu'un pastiche, par définition, ce n'est qu'une imitation, sans aucune innovation, alors que les grands écrivains sont par définition des gens qui ne se pastichent pas, mais des gens qui avancent. Le fait de pouvoir être victime de ce genre de pastiche, ça vous incite à dire, est-ce que vous connaissez vraiment de l'intérieur une œuvre ? Je me rappelle que récemment, il y avait un jeune homme qui s'était amusé à envoyer à trois éditeurs de Marguerite Duras un manuscrit qui reproduisait fidèlement, en changeant simplement le titre et les noms, l'après-midi de Monsieur Andesmas. Et les trois éditeurs, à savoir Gallimard, Paul et Minuit, avaient refusé le manuscrit, avec une lettre de refus quelconque. Et le journaliste en question avait publié, avait fait un article dans le Figaro littéraire pour s'esbaudir de la nullité des éditeurs qui n'étaient pas foutus de reconnaître un livre de Marguerite Duras.
Et parfois même ceux même qu'il avait publiés.
Et notamment les éditeurs qui l'avaient publié. Je veux dire, c'était étonnant comme méconnaissance de ce qu'est le métier. Vous pensez bien que, effectivement, c'est Irène qui avait lu le livre, mais enfin, je pense que j'aurais fait la même chose. Bien entendu, Irène m'a dit tout de suite, tiens, on a encore il y a un pastiche de Duras, comme on le reçoit d'ailleurs beaucoup. Et cela dit, elle n'a pas vu, parce qu'elle n'avait pas lu l'après-midi de Monsieur Andesmas, elle n'a pas vu que c'était Monsieur Andesmas, mais c'était en plus un Duras d'il y a 30 ans, c'est-à-dire, Marguerite Duras a fait beaucoup de progrès depuis cette époque, disons. Bon, et on se disait, bon, bah, c'est un pastiche de Duras, ça n'a aucun intérêt, et dans ce cas-là, on envoie la lettre, comme dans 99,5% des cas, une lettre qui est une lettre non circonstanciée, qui dit, bon, ça n'entre pas dans le cadre de ce que nous publions. Et pour autant, je veux dire, c'est précisément parce qu'on voyait que ça ressemblait à Marguerite Duras qu'on ne publiait pas. C'est pas du tout parce qu'on n'avait pas vu que c'était Marguerite Duras. Et ça, des livres à la manière de Marguerite Duras, à la manière de Claude Simon, à la manière de Beckett, quelquefois qui sont bons d'ailleurs, mais dans la mesure où ce sont... des auteurs qui... alors, certains sont des pasticheurs, ça n'a pas d'intérêt, mais certains autres sont de vrais lecteurs. Par exemple, on a reçu récemment des textes d'un garçon qui a admirablement lu l'œuvre de Samuel Beckett et qui l'a lu si bien qu'il n'arrive pas à s'en déprendre.
Voilà, c'est la contamination, plutôt.
Et c'est ça. Mais c'est très intéressant. D'abord, ça montre que c'est un merveilleux lecteur. Et puis, c'est vrai qu'il y a un intérêt dans ce livre. Mais d'un autre côté, c'est impubliable parce que... pour les raisons évidentes. Mais l'œuvre existe quand même. Elle existe, mais elle est impubliable. C'est deux choses différentes. Une œuvre, ce que souvent j'essaie d'expliquer à des gens, dis, ben, l'œuvre en tant qu'œuvre de l'esprit que vous avez accomplie, elle se défend. Mais qu'est-ce que vous me demandez à moi d'en faire un produit de série ? Ben, ça, je peux vous dire que non, elle n'est pas faite pour ça. Mais ça ne peut pas dire qu'elle est nulle. Ce sont deux problèmes différents.
Est-ce qu'il arrive donc que certains de vos écrivains vous demandent des conseils en cours de rédaction de leur manuscrit ?
Pratiquement jamais. En tout cas, je ne les y encourage pas du tout. Parce que je pense que c'est pas, que moi, c'est déjà difficile de lire et d'entrer vraiment dans une œuvre terminée parce que vous êtes par définition étrangère puisqu'elle existe en dehors de vous. Mais alors, si c'est une œuvre non terminée, pour moi, une œuvre non terminée, c'est pas une œuvre. C'est comme un tableau non terminé, c'est comme une symphonie. Je veux dire, ça veut rien dire. Une œuvre, c'est seulement le dernier mot écrit qu'elle commence d'exister. Avant, elle n'existe pas. Enfin, pour moi, elle n'existe pas. J'aurais beaucoup de mal. Et en plus, je me verrais mal donner des conseils sur ce qui n'a pas encore été écrit.
Bah, ou simplement peut-être rassurer. Quelqu'un peut vous demander, voilà, j'en suis à la moitié de mon livre.
Non, un vrai écrivain, pas besoin d'être rassuré. Un vrai écrivain, il sait ce qu'il fait. Et s'il n'est pas rassuré, c'est peut-être qu'il a raison de ne pas l'être.
Vous croyez que les vrais écrivains sont certains de ce qu'ils écrivent? Ils ne sont pas rongés par l'idée que c'est très mauvais?
Non, comment dire, ils peuvent être tout à fait modestes. Des grands écrivains peuvent être modestes. Samuel Beckett était quelqu'un qui m'apportait presque jusqu'à la fin un manuscrit en me disant « Tu me diras si tu crois que c'est publiable. » Et il le pensait. Mais encore une fois, pour autant, il savait très bien que c'était une œuvre qui se tenait. Simplement, la question qu'il posait, c'était « Est-ce que ça peut être un produit de consommation, si je puis dire ?» Bon, si quelqu'un n'a pas en soi suffisamment de courage pour mener sa propre œuvre à son terme, je ne crois pas qu'il faille l'encourager à faire ce métier, si je puis dire, parce que alors là, il va passer. Bon, c'est une question entre soi et soi, hein, pour un écrivain. Et bien sûr, je ne me dérobe pas si on me le demande, mais je vous dis, encore une fois, ça m'arrive très rarement et je trouve ça très bien que ça arrive rarement.
Jérôme Lindon s'entretenait avec Jean-Maurice de Montrémy. Réalisation Marie-André Arminot.
Cet entretien avec Jérôme Lindon a été diffusé la première fois le 20 octobre 1994 sur France Culture. À suivre.